Les meeples sont de sortie. C'est la pause à midi. C'est ludique, c'est ludique. Les jeux, c'est magique.
Et bonjour à tous, bienvenue dans C'est Ludique, les amis. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu expert. Oui, j'ai pas l'habitude forcément de parler de jeux experts, mais de temps en temps, eh bien, on parle d'un jeu expert. Et vous allez voir, aujourd'hui, on va rentrer dans l'esprit inconscient. Et puis, on retrouvera Guillaume de Lucky Dot Games, anciennement de chez Trip Track. Guillaume sera donc avec moi, c'est mon invité aujourd'hui. Eh bien, C'est Ludique, ça commence tout de suite.
C'est la pause déjeuner, Nat pour t'inviter à jouer. C'est ludique, encore plus de nouveautés.
Et au menu donc aujourd'hui, c'est Unconscious Mind, la société du mercredi, un jeu de Zats, Yoma, Lascas, Johnny Pack, illustré par Andrew Bosley et Vincent Dutray. Alors dans ce jeu expert pour 1 à 4 joueurs à partir de 12 ans, un jeu édité par Lucky Dot Games, certainement l'un des plus gros Eurogames de cette année, et en tout cas que je vous ai présenté, on est dans la psychanalyse. Vous allez être un disciple de Freud. Il faudra vous plonger dans l'esprit de vos clients grâce à l'analyse des rêves et des cauchemars. Vous irez explorer la vieille ville de Vienne pour gagner une réputation auprès des locaux. Vous apprendrez des nouvelles techniques thérapeutiques lors des réunions autour d'un café avec vos collègues. Oui, vous allez boire beaucoup de café et vous intégrerez différentes techniques. Alors au niveau de la mise en place, chaque joueur aura son plateau personnel pour la consultation, un mini plateau cabinet. Chaque joueur aura aussi une roue d'intuition. Il y aura deux plateaux, la table de réunion, c'est là où vous placerez vos idées, et le plateau de la ville de Vienne. On retrouvera aussi les cartes clients, rêves, recherches et les tuiles carnets et traités. Il y a beaucoup de matériel. La DA est certainement la meilleure de l'année. Le matériel et les illustrations sont magnifiques. On est vraiment dans l'ambiance. Comme c'est un gros jeu, je ne vais pas rentrer dans tous les détails car sinon je vais vous perdre. Ou sinon, on prend une petite heure et vous vous allongez sur le divan. Mais alors, comment on joue ? Eh bien, le but du jeu, c'est d'utiliser vos idées. Pour réaliser des actions et déclencher de nombreux effets, il y a trois actions que vous pouvez faire à votre tour. Énoncer les idées, c'est la principale, les rassembler ou traiter des clients. Alors pour énoncer des idées, vous allez placer une ou deux idées de votre réserve sur la table de réunion. Ce sont des pions en bois en forme de bulle. Chaque idée doit être orientée vers une case d'action adjacente, non ciblée par une autre de vos idées. En ciblant, vous faites des actions. Il y en a 9, il y a 9 possibilités, comme gagner des tuiles carnet, piocher des cartes recherche, valider des traités en plaçant vos intuitions. Vous avez aussi la possibilité de repositionner vos intuitions sur votre roue, déplacer des pions sur la carte de la ville, Freud ou votre pion. Il y a énormément de choses à faire et je ne vais pas rentrer dans le détail. Ensuite, vous déplacez votre encrier sur votre plateau qui, en fonction du nombre de cases indiquées sur la table de réunion, vous permettra de déclencher des effets sur votre plateau personnel. Sur votre plateau personnel, vous placez des tuiles carnet. Vous pourrez aussi récupérer vos propres intuitions ou de nouveaux pions idées. Lors de cette phase, vous allez faire de nombreuses actions. Pensez à utiliser la ressource du jeu, le café, qui vous permet aussi de faire bouger vos intuitions ou gagner des idées brillantes. Les intuitions, ce sont vraiment les ressources que vous devez dépenser pour traiter les patients, notamment, on va y revenir. Autre action, c'est de rassembler ces idées. Alors quand vous n'avez plus de pions idées, vous pouvez les récupérer, vous allez gagner du café et un bonus de lieu. Et puis la troisième et dernière action, et c'est logique, il est temps de soigner des clients. Pour cela, vous utilisez les intuitions associées aux rêves visibles, latents et manifestes. Alors ces intuitions vous permettent de déclencher leurs effets qui vous offriront des points de thérapie et parfois des bonus comme des points de victoire. À chaque point de thérapie que vous gagnez, vous déplacez le marqueur de thérapie du client d'une case. Lorsque vous arrivez à l'icône de la catharsis, c'est le moment de déclencher et de défausser la couche de douleur du client. Oui, ce sont des cartes transparentes qui sont rajoutées sur le client et donc qu'il faudra enlever. Et vous allez marquer les points indiqués et ça débloque aussi pas mal d'icônes. Il y a plusieurs types de clients, les réguliers vous donnent des icônes de lieu notamment, et les clients études de cas qui vous donneront des points de victoire. Quand le marqueur thérapie arrive au bout de la piste, le client est soigné et il vous donnera des points de victoire. Vous pouvez soigner deux clients en même temps, sachant qu'au début, vous n'en avez qu'un. Je ne vous l'ai pas dit, mais tout au long du jeu, vous allez faire avancer Freud sur la piste de réputation. Quand il arrive à la fin, cela déclenchera la fin de la partie. On comptera tous nos points, ceux déjà marqués, les points des patients soignés, les tuiles carnées sur votre plateau, les icônes de lieu, entre autres, celui qui a le plus de points l'emporte. Il existe différents modes, modules et un mode solo que je vous laisserai découvrir. Vous pouvez même ajouter une extension si vous voulez encore plus de Unconscious Mind. Je vous ai pas parlé hein, du plateau de la ville de Vienne. Là aussi, vous allez pouvoir récupérer des bonus. Alors, ce que j'en pense, là, c'est sûr, avec Unconscious Mind, vous avez un jeu expert dans vos mains, avec des illustrations magnifiques et du matériel incroyable par rapport au prix. Le thème est vraiment bien intégré dans toutes les mécaniques. Dans ce jeu, il faudra beaucoup réfléchir, même si les actions ne sont pas très compliquées, car le jeu va évoluer. Il y aura énormément de combos. Il faudra faire plusieurs parties avant de tout assimiler, mais la bonne nouvelle, c'est que l'on a envie d'y retourner. Chaque partie sera différente. Bravo en tout cas, Lucky Duck, d'avoir eu l'idée de le localiser. On va continuer à parler d'Unconscious Mind dans un instant, mais aussi des différents jeux Lucky Duck Games avec Guillaume.
C'est la pause déjeuner, il fait l'actualité, c'est ludique, et c'est notre invité.
Et notre invité aujourd'hui, c'est Guillaume. Avec lui, on va revenir sur le nouveau jeu expert de Lucky Duck, Unconscious Mind, que je viens de vous présenter. Mais bien sûr, un jeu expert présenté en 3 minutes, c'est compliqué d'en faire le tour. Il y a tellement de choses dans ce jeu avec un thème peu utilisé dans le jeu de société, l'inconscience de l'esprit. Bonjour Guillaume.
Salut Mathieu et salut les céludiquiens et les céludiquiennes.
Alors, comment ça se passe dans ta nouvelle vie? T'es arrivé chez Lucky Duck en septembre. Raconte-nous un petit peu cette nouvelle aventure et ton rôle au sein de Lucky Duck.
Eh bien écoute, ça se passe très bien. En fait, c'est une nouvelle expérience du côté du jeu de société puisque je rejoins Lucky Duck Games en tant que brand manager. Alors le titre est un peu ronflant et il ne veut pas forcément dire beaucoup de choses comme ça ou alors beaucoup trop de choses derrière. Mais grosso modo, mon rôle est de faire le lien entre Goliath qui a racheté Lucky Duck Games et la collection Lucky Duck Games. C'est-à-dire faire en sorte que les réseaux de distribution qui sont plutôt du côté des grandes surfaces spécialisées, donc Fnac, Cultura, La Grande Récré, King Jouet, etc., puissent avoir le plus d'informations possible sur ces jeux de société qu'on affectionne tellement, ce que l'on appelle les jeux de société modernes et les nouveaux classiques, et donc du coup faire ce pont entre ces deux univers pour que les jeux soient le plus connus, respectés, amenés jusqu'à tout ce public qui le découvre de plus en plus. Donc voilà, ça c'est mon rôle, et en même temps je m'occupe de faire de la communication avec les boutiques, avec nos ludicaires adorés, et puis avec l'équipe éditoriale pour comprendre, voir, gérer les calendriers, les nouvelles sorties, qu'est-ce qui arrive, quand, à quel moment est-ce qu'on en parle, pourquoi. Voilà, tout ça, c'est mon travail.
Pas mal de choses. Donc, comment on parlait d'Unconscious Mind? Tu as bu combien de café ce matin?
Alors, je me suis contenté du thé, puisque comme si Gunfreud n'était pas à mes côtés, je me suis dit que je vais laisser le café pour mes parties d'Unconscious Mind. Mais non, effectivement, oui, le café, tu l'as dit, c'est vraiment une ressource importante qui permet de gagner en souplesse dans les parties d'Unconscious Mind.
Alors, il y a pas mal de choses à faire hein, dans Unconscious Mind. D'ailleurs, au début, on est un petit peu perdu, mais après, au fur et à mesure de la partie, on voit dans quelle direction on va. Hein.
Oui, alors je trouve que c'est la force de Unconscious Mind. C'est pour éviter d'être perdu, racontez-moi l'histoire. Ouais. Donc grosso modo, je vais aller sur le plateau de discussion, celui de la société du mercredi, là où je vais énoncer des idées, au moins je vais faire des actions. Ou alors je vais aller me balader dans Vienne, parce qu'en me baladant dans Vienne, je vais rejoindre Sigmund Freud et il va m'aider à récupérer des ressources, etc. Ou alors je vais dans mon cabinet et puis je vais soigner des patients. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs couches, il y a plusieurs niveaux de réflexion et plusieurs niveaux de stratégie, mais je trouve que le thème se racontant bien, on peut se raconter l'histoire pour au moins ne pas perdre le fil de sa pensée, ce qui dans Unconscious Mind est plutôt bienvenu.
Et puis c'est un thème qui est rarement utilisé dans le jeu de société, hein.
Alors, à vrai dire, je pense que de mon côté, pour avoir fait quelques recherches, il y a quelques jeux autour des illustrations, des tests de Rorschach, etc., parce que il y a une espèce d'évocation comme ça, un peu onirique autour du rêve. Mais sur la psychanalyse, l'histoire même, c'est même pas simplement la psychanalyse, l'histoire de la psychanalyse, c'est vraiment quelque chose d'unique.
Alors, il y a pas mal de mécaniques dans le jeu, mais il faut surtout pas négliger celle du placement des intuitions, hein, savoir les utiliser au bon moment.
Oui, c'est ce qui donne le côté, en plus de l'aspect gestion de ressources, collection, objectif, c'est ce qui donne un petit peu cet aspect programmation. Mmh. Un jeu avec un tempo, avec un dynamisme, c'est-à-dire je vais faire fructifier ces différentes ressources, ces différentes intuitions, mais il va falloir que je les fasse élever en termes de qualité, voire même en termes de quantité, pour pouvoir ensuite les utiliser, et tu as tout à fait raison de le dire, au bon moment, celui qui va me maître le plus profitable en termes de points de victoire ou en termes de souplesse future de jeu et de stratégie.
Et puis, il y a la libération des patients quand on arrive à la catharsis. Alors là, on se dit qu'on est sur la bonne voie pour le soigner.
Ah, c'est vraiment un moment que j'apprécie beaucoup et je me fais rire moi-même lorsque, n'ayant pas suffisamment de ressources pour le soigner, j'utilise mon pilulier et donc j'ai l'impression de leur donner un antidépresseur en disant « Bon, vous y êtes presque, la catharsis est là, tenez, prenez encore une ou deux pilules et c'est bon, vous êtes guéri.
» C'est ça. Bon, on est vraiment avec Unconscious Mind sur un jeu à combo.
Oui, et c'est en ce sens-là où il est réservé. C'est pas vraiment réservé dans le sens « n'y allez pas ». C'est vraiment réservé en termes de niveau de jeu, de complexité. On le classe complètement dans un jeu expert. Il y a plusieurs stratégies possibles. Elles s'interpénètrent les unes les autres. J'ai besoin de ci, mais je vais aller ça. Par exemple, dans mes premières parties, je me suis rendu compte que j'utilisais très peu le plateau de Vienne, le plateau de la ville.
Ah oui,
parce
moi
que
aussi.
Mon esprit, justement, était déjà focus sur quelque chose qui me semblait déjà riche pour pouvoir le maîtriser, etc. Et c'est en ce sens-là où il y a une vraie courbe d'apprentissage. Mais oui, le jeu est quand même, là pour le coup, de façon consciente et non pas inconsciente, assez exigeant.
Oui, et puis il y a les traités aussi avec la recherche et tout et tout. Il faut pas mal de parties quand même avant de maîtriser la bête. Hein.
Complètement. C'est dans la tendance de l'ère du temps de passer de nouveauté en nouveauté. Je pense que Unconscious Mind fait partie de ces jeux qui nécessite, je ne dis même pas, c'est vraiment un besoin de faire au moins deux ou trois parties avant de pouvoir dire « ça y est, je commence à comprendre et à savoir où je vais ». Ça ne veut pas dire que je ne vais pas prendre de plaisir sur mes premières parties, ça veut juste dire que cette courbe d'apprentissage et ces combos, étant donné qu'il y a une multitude de couches de stratégie, eh bien j'ai besoin de ce temps-là d'apprentissage. Mais on a aussi des joueurs et des joueuses qui sont de plus en plus exigeantes sur ces jeux à courbe d'apprentissage en disant « mais non, mais justement, moi ce que je veux, c'est aller de plus en plus loin dans la maîtrise du jeu ».
C'est ça, ouais. Alors, il y a pas mal de jeux qui sont sortis encore cette année et pas mal de localisations. Comment sont choisis les jeux chez Lucky Duck ?
Alors, du côté, c'est une très bonne question et merci de la poser, Mathieu, parce que c'est pas forcément la question qui vient naturellement. Cette notion de choix est importante au sens où l'objectif est de faire en sorte que chaque année, dans les différents segments, donc en termes de jeu famille, jeu initié, jeu expert, mais aussi en termes de jeu de placement d'ouvriers, jeu de coopération, jeu de pose de tuiles, on essaye de faire en sorte que dans chacune de ces segmentations, il y ait un jeu qui puisse correspondre à chacune et à chacun. Donc la sélection, elle se fait en regardant le jeu et le public, et surtout ça, la mécanique et le public à qui ce jeu se destine, en disant « est-ce qu'on en a déjà un ? C'est pas la peine ». Ouais. Est-ce que ça coche les cases pour un type de joueur qu'on n'a pas encore rejoint cette année ? Oui, alors allons-y. Alors attention, là bien sûr, c'est la façon un peu idyllique de le proposer, de le présenter. Il y a aussi des éléments qui parfois viennent chahuter un petit peu ça. Par exemple, nous avons des partenariats avec des éditeurs. Dans le cadre de ce partenariat, il y a des jeux sur lesquels l'éditeur va nous dire « Ah non, mais si on veut continuer le partenariat, il faut que ce jeu-là il puisse exister en français. Ouais. » Donc là, on a un peu moins la main. Mais c'est toujours ces allers-retours pour dire « Est-ce que ça a une consistance de sélectionner ce jeu ?» dans l'état actuel du marché, qui est quand même un marché un petit peu saturé. En tout cas, pas saturé, c'est pas le bon mot, mais qui est vraiment prolifique.
Ouais.
Ceux qui ne suivent pas au jour le jour les nouveautés peuvent très vite se retrouver noyés par « mais encore un nouveau jeu ». La fenêtre se restreint de plus en plus, oui.
C'est quoi l'ADN aujourd'hui de Lucky Duck ? Vous allez vraiment sur tout ?
Alors non, on a très peu de jeux enfants, vraiment enfants, parce qu'on s'est rendu compte que ce n'est pas là que le public joueur et joueuse nous attend, et on va de moins en moins vers le hyper expert. Grosso modo, sur Board Game Geek, qui est le site d'information anglophone le plus connu mondialement, les jeux, on leur attribue une note qui est en fait un poids du jeu. Ce poids indique une quantité d'informations à ingurgiter pour jouer au jeu, à maîtriser pour l'avoir sur les différentes parties. Et donc, on ne va pas sur... C'est une note sur 5. Donc, les notes qui vont être à 4 sur 5 ou à 5 sur 5 en termes de poids, donc des hyper experts, on ne va pas non plus sur cette segmentation. Donc, voilà, on va de du famille, du enfant-famille, jusqu'au expert, mais expert accessible malgré tout, entre guillemets.
Ouais. Quel jeu t'as préféré cette année ?
Ah, alors là, j'ai deux coups de cœur et j'ai même pas besoin de regarder mes notes, mes fiches et mes machins, parce que justement, c'est mes coups de cœur. C'est Toriki. Parce que du côté de Lucky Duck, c'est un jeu de notre studio et j'ai apprécié au point que j'ai voulu y jouer tout seul sans forcément y jouer avec les enfants puisque c'est plutôt normalement un jeu enfant-famille.
Un jeu enfant, ouais.
Mais pour le plaisir de faire le mode survie, de me croire en Robinson Crusoe scientifique et pour le faire à mon rythme, j'ai pris plaisir à le faire. Et le deuxième, c'est Unsettled. Celui-ci est un jeu un petit peu effectivement exigeant aussi, mais les aventures qu'ils m'ont racontées, les films que je me suis fait dans ma tête en jouant à ce jeu d'exploration et de survie spatiale, c'est vraiment... J'ai rarement ressenti dans un jeu ce sentiment de me retrouver face à de l'inconnu et
d'accord,
que j'allais devoir explorer pour comprendre ce qui se passait. Ça m'a vraiment fait triper.
Alors comment s'annonce le planning 2025 ? Est-ce que tu peux nous donner déjà quelques petites infos ?
Je sais pas si j'ai le droit, mais alors je vais vous en donner, mais il faudra que je vous élimine après. Non, je plaisante. Non. Il y a quelques infos, bien sûr. On va étoffer la gamme de Cascadia. Donc Cascadia, c'est le jeu de la
ouais.
des Serreuses 2022. Il continue de cartonner, et donc on va on va étendre sa gamme avec le Cascadia Rolling, qui est un jeu de Roll and Write, donc je lance des dés et je coche des cases pour avancer dans le jeu.
Mm-hmm.
Dans les jeux un petit peu experts comme ça, on a Andromeda's Edge, qui est un jeu qui a été acclamé à sa sortie en campagne de financement participatif et qui du coup va arriver sur nos tables en français avec Lucky Duck Game. Dice Throne, qui est une très forte gamme, va voir aussi de nouvelles boîtes arriver. Donc le prochain dans la collection Boop aussi, on va avoir on va entendre parler un petit peu de choses comme luthier, donc Vivaldi et les Stradivarius vont venir aussi avec un thème un peu particulier, l'appareil en jeu expert. Thunder Road, pourquoi est-ce que je ne vous ai pas parlé de Thunder Road Vendetta? Thunder Road Vendetta, on n'aurait jamais pensé que c'était un jeu qui arriverait sur nos tables parce qu'il était en financement participatif, c'est une boîte énorme à
ouais.
une centaine d'euros. Mais en fait, c'est le survivant, donc le vieux jeu des années 80 qui revient sur nos tables, et c'est tellement le bonheur de jouer Mad Max avec nos petites voitures. Oui, effectivement, je me sens un peu revenir en enfance, mais je l'assume complètement, j'adore ce jeu. Donc ça, c'est pareil, ça arrivera en 2025.
Il y a un jeu aussi que j'ai testé à Vichy avec des animaux, je sais pas si on a le droit d'en parler, tu sais, avec des fleurs qu'on pose, avec des arbres et tout ça.
Ah, alors... On n'a pas, mais c'est très bien que tu le dises. On n'a pas encore le droit d'en parler.
D'accord.
Mais,
okay, je me tais.
Non, mais en fait, ça, c'est très bien que tu me le fasses dire parce qu'au final, ça arrive là dans les jours qui viennent. Donc, auditeurs, auditrices, restez, stay tuned, comme on dit sur les réseaux sociaux, puisque l'annonce va arriver. C'est un jeu des auteurs de Flamme Rouge, des succès Flamme Rouge et Hit. Et tu as tout à fait raison de le mentionner. Si c'est pas une nomination Asdor, je pense que ça peut être une nomination Spiel des Jahres, parce que le jeu est tellement bon, tellement beau, tellement familial. Je suis content que tu en parles parce que vraiment c'est certainement on met toujours beaucoup d'espoir et on verra ce que la réalité sera puisque c'est vous, auditeurs et auditrices, qui faites la réalité. Mais on attend beaucoup de ce jeu-là.
Donc
et on
ça...
en parle tout bientôt dans les réseaux sociaux.
Donc ça arrivera dans l'année, certainement, c'est ça ?
Ah, complètement.
Okay.
C'est même, je peux même te le dire, ça sera du premier trimestre 2025.
Ah oui,
toi, c'est,
ah oui, donc c'est bientôt, effectivement.
C'est bientôt, tu as raison, Mathieu. C'est bientôt.
Alors maintenant, je te propose une consultation radiophonique, hein, puisqu'on parlait d'Unconscious Mind.
Je vous en prie, docteur.
On va essayer d'en savoir un petit peu plus dans ta tête en ce moment. Quel est ton dernier rêve réel ?
Mon dernier rêve réel, eh bien, je me suis surpris à re-rêver de mon ancienne vie, c'est-à-dire quand j'étais interprète de conférences en langue des signes. Donc,
ouais.
je me suis surpris à re-rêver de reparler, de retraduire en langue des signes des choses.
D'accord. Quel rêve aimerais-tu faire ?
Que j'aimerais faire pendant la nuit ou que j'aimerais réaliser ?
Que t'aimerais faire pendant la nuit ?
Ah. J'aimerais bien rêver que je suis un acteur de cinéma.
D'accord, ok. Ça marche, pourquoi pas. Et ton dernier cauchemar ?
Ah là là, mon dernier cauchemar, c'est d'avoir l'impression que mon esprit, alors que je suis en train de dormir, est éveillé et en train de réfléchir à des éléments du boulot, de la journée, etc. Et de me réveiller de me réveiller au matin ou en plein milieu de la nuit. Non, mais là, il faut que je parte au boulot, etc. Non, mais t'étais en train de dormir. Oh la vache, non, je veux pas ça, je veux pas. Laissez-moi dormir en paix.
Quel serait le cauchemar que tu ne voudrais pas faire pour le monde du jeu?
Je n'aimerais pas que le monde du jeu se perde à la fois du côté grand public, c'est-à-dire que le niveau des jeux soit abaissé pour pouvoir faire des choses très commerciales, ça serait très dommage. Et en même temps, je ne veux pas non plus que, c'est pas pour autant que je veux que le monde du jeu retourne dans un espèce d'anonymat ou de geek, de côté un peu geek underground, parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose qui apaise, qui réunit les gens. Et j'aimerais pas qu'on perde ça, surtout dans un univers, un monde un peu chahuté comme en ce moment.
Comment tu vois l'année 2025 pour le milieu du jeu ?
Je le vois comme une continuité de cette année 2024, c'est-à-dire un réajustement des éléments. Je pense qu'il y a des maisons d'édition qui malheureusement vont encore un petit peu être à la peine, des boutiques ludiques qui vont être un petit peu à la peine parce que le marché qui est en train d'être mature est obligé de passer par cette phase un petit peu d'adolescence difficile. Donc je pense que l'année 2025 sera dans cette continuité, mais en même temps pour du mieux. C'est-à-dire que puisqu'on a rééquilibré les valeurs, les données de ma table de mixage, on va pouvoir ensuite repartir dans un deuxième temps. Le marché se scinde un petit peu, hein. On sent qu'il y a des produits qui passent et qui vont du côté du grand public, de la grande distribution, et puis des jeux de société qui repartent un petit peu en mode un peu sous-marin, mais qui continuent de vivre, mais à un rythme beaucoup plus lent. Donc il y a vraiment cette scission qu'on a déjà connue aussi dans le milieu du jeu vidéo et de la bande dessinée, hein. Donc ouais. Ça, en tant que produit culturel, ça ne me surprend pas et c'est pas anormal.
Si tu pouvais prédire l'As d'or, ça serait lequel ?
Oh pétard ! Oh pétard, si je devais prédire l'As d'or, bonne question. Ah, je miserais, alors c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé ces derniers temps, donc on a tout de suite l'impression de dire, ah ça y est, on a un bon candidat, The Gang,
ok.
C'est pareil, comme on dit dans le milieu, il coche beaucoup de cases, donc, mais en même temps, est-ce que c'est un effet de mode et est-ce qu'il s'installera dans la durée ? Ça, je ne peux pas le prédire.
Si tu étais allongé sur le divan du psy, qu'est-ce que tu aimerais lui raconter ?
J'aimerais lui raconter tout ce qui me traverse la tête en ce moment. C'est ce que je disais, hein, je suis un peu un inquiet et un stressé de la vie. Donc je lui raconterais tout ce qui me stresse et m'angoisse du monde qui m'entoure et que je comprends de moins en moins pour qu'il puisse amener un petit peu de sérénité là-dedans, là-haut dans le ciboulot.
Et dernière chose, Guillaume, si tu étais l'un des psychanalystes assis à la table de Freud, quel sujet aurais-tu aimé aborder ?
Ah, eh ben, j'aimerais bien aborder la symbolique. Alors attention, je vais plomber l'émission. La symbolique de la mort. C'est-à-dire que justement, allez-y, racontez-moi, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça impacte et comment notre psyché se construit avec cet élément majeur qui traverse toute vie et tout élément naturel, hein, la thermodynamique. Nous montre que les lois de la thermodynamique nous montrent que tout va vers cette période-là, cette truc pas drôle. Et j'aimerais bien la maîtriser un petit peu plus. Donc vas-y Freud, raconte-moi.
Merci beaucoup Guillaume. Alors demain j'aurai comme invité Sepio, une jeune illustratrice.
Ouais.
Qu'est-ce que tu penses de son travail ?
Eh ben écoute, je trouve que ça fait partie de ces éléments où on apporte. Alors, un vent d'air frais, c'est pas vrai, parce que ça voudrait dire que tous ceux, illustrateurs et illustratrices que l'on connaît, ça y est, ça sent la poussière, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais j'aime être un petit peu bousculé dans ce que j'en vois, dans ce que ça me fait ressentir. Donc, j'apprécie beaucoup ce renouvellement, ces nouvelles découvertes, en me disant, ah oui, bah tu vois, je ne me serais pas attendu à ce type d'illustration, assez cool, ouais. Etc. Donc, c'est chouette de pouvoir continuer, en tout cas moi de mon côté, à être un petit peu émerveillé, avoir un petit peu des étoiles dans les yeux avec ces découvertes-là. Donc, super, belle invitée.
Eh ben, merci beaucoup Guillaume d'avoir été là ce midi dans
Mathieu.
C'est Ludique. Et puis on se retrouvera certainement du côté de Cannes.
Sans aucun problème et avec joie, passez nous faire un coucou, on vous montre les jeux, on joue, on discute, on papote, c'est du plaisir ces rencontres, donc profitez-en. Merci Mathieu de m'avoir permis ce petit temps d'échange.
Salut Guillaume.